Pendant la dernière guerre mondiale, les puissances de l'Axe, Berlin, Rome, Tokyo, étaient opposées aux Alliés. Les grands conflits ont souvent lieu entre deux blocs de nations qui s'affrontent pour des raisons diverses. Mais il y a toujours au moins l'un des belligérants qui cherche à étendre son hégémonie et à piller ses voisins. C'est aussi ce qui, à la fin des temps, déclenchera des guerres effroyables et la dernière bataille, Armageddon. Nous arrivons au chapitre 39 du livre d'Ézéchiel qui continue la prophétie contre Gog qui, à la fin de la première moitié des 7 ans de tribulation, a pris la tête d'une coalition pour attaquer Israël. L'objectif du prophète est de décrire de façon dramatique et triomphante le châtiment exemplaire et la défaite cuisante que ses armées vont subir de la part de l'Éternel. Après une menace de jugement, la description de la défaite de Gog donne plusieurs détails qui ne se trouvent pas dans le chapitre précédent, comme la destruction par le feu des armes de guerre et l'ensevelissement des morts des armées détruites. Puis nous apprenons que les oiseaux et les animaux sauvages sont conviés à un grand festin que Dieu leur a préparé et qui consiste à se repaître des cadavres des envahisseurs. Et en conclusion, Ézéchiel parle de l'avenir de paix, de bonheur et de gloire dont jouira Israël quand il entrera dans le millénium. Je commence à lire le chapitre 39. « Et toi, fils d'homme, prophétise sur Gog et dis, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, je m'en prends à toi, Gog, prince suprême de Méchec, ainsi que de Toubal, je te conduirai, je t'entraînerai. » Je te ferai venir des confins du septentrion pour te faire arriver sur les montagnes d'Israël. Versets 1 et 2. L'Éternel répète le nom et les titres des envahisseurs comme cela se fait dans un tribunal lorsque le juge lit le verdict du coupable. Ces guerriers croyaient avoir pris eux-mêmes la décision d'attaquer Israël afin de le piller et le détruire, mais en réalité c'est l'Éternel qui dirigeait tous leurs mouvements. Je continue. « Je frapperai ton arc pour que ta main gauche le lâche, et je ferai tomber tes flèches de ta droite. » Verset 3. Les anciens historiens appelaient les peuples du Grand Nord les archers à cheval. Je continue. « Sur les montagnes d'Israël, tu tomberas, toi et tes bataillons, et les peuples nombreux qui seront avec toi. Je donnerai ton corps en pâture aux vautours et à tout ce qui vole et aux bêtes sauvages. Tu tomberas là-haut. » En plein milieu des champs, car c'est moi qui le dis. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Versets 4 et 5. L'Éternel va combattre pour son peuple. La destruction de Gog et de ses alliés a déjà été amplement décrite dans le chapitre précédent. Mais cette répétition sert à montrer que l'Éternel a pris la décision irrévocable de punir ses envahisseurs et rien ni personne ne l'empêchera d'exécuter ses jugements. Précédemment, Ézéchiel a prophétisé que ce châtiment prendra plusieurs formes, dont une pluie de feu et de soufre. Ce fut aussi le moyen utilisé par Dieu pour anéantir Sodome et Gomorre à cause des mœurs corrompues de leurs habitants et du climat de violence qui régnait dans ces villes. Dans cette histoire que nous raconte le livre de la Genèse, Abraham joue un rôle prédominant. Il est intervenu parce qu'il pensait que l'Éternel n'était pas juste en voulant détruire toutes les villes de la vallée. Je rapporte une partie de sa conversation avec Dieu. Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi, leur perversité est énorme. » Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. » Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Fin de citation. Puis Abraham a fait monter les enchères, mais par le bas. Il est passé de 50 justes à 45, 40, 30, 20, 10. Et chaque fois, Dieu était d'accord, et ils se sont quittés après que l'Éternel ait dit, « À cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. » Malheureusement, Lot, le neveu d'Abraham, était le seul juste dans Sodome. Pendant qu'Abraham et Dieu discutaient, les anges qui étaient descendus dans la vallée dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils, fille et tout ce qui est à toi dans la ville? Fais tout sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » Et comme il tardait, les anges le prirent par la main, ils prirent aussi par la main sa femme et ses deux filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner, lui et sa famille, et ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. Fin de citation. Ensuite, Lot demande à se réfugier dans une petite ville, et l'ange lui répond, « À toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. » Dans cette histoire, avant de mettre son plan à exécution, l'Éternel a fait en sorte que ceux qui avaient foi en lui soient épargnés. À la fin des temps, Dieu jugera le monde entier pendant une période de 7 ans appelée la tribulation. Ce temps de jugement verra les puissances infernales se déchaîner sur terre et culminera dans la bataille d'Armageddon. Mais avant ce châtiment inédit aura lieu l'enlèvement de l'Église quand Jésus-Christ viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Comme j'ai déjà dit, les événements des chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel auront lieu un peu avant le milieu des 7 ans de la tribulation. Une fois Gog et ses alliés détruits par Dieu, l'Antéchrist aura les coudées franches pour faire ce qu'il voudra pendant la deuxième moitié de la tribulation. Suite à ce temps de jugement, Jésus-Christ reviendra pour anéantir toutes les forces qui s'opposent à lui avant d'établir son royaume de 1000 ans sur terre. L'étude des prophètes de l'Ancien Testament fait ressortir des grands principes qui s'appliquent aux nations du monde et aux croyants. La manière dont Dieu s'est comporté vis-à-vis d'Israël est un microcosme de sa façon d'agir envers tous les peuples de la planète. En effet, Dieu régit le monde selon des principes qui découlent de ses attributs. Plus qu'aucun autre prophète, Ézéchiel met l'accent sur la grandeur et la sainteté de Dieu. Au début du livre, il a vu une représentation de la gloire divine qu'il a décrite en détail. Or, celle-ci fut bafouée par Israël à maintes et maintes reprises. Comme l'Éternel est miséricordieux et sa patience quasi infinie, il a envoyé des prophètes pour avertir son peuple que s'il ne se repentait pas, il le jugerait. On connaît la suite, et le châtiment fut sévère. Le royaume de Juda fut détruit et Jérusalem réduite en cendres. Ça me fait penser qu'aujourd'hui, la plupart des hommes se moquent bien des Écritures et mettent leur foi en des balivernes. Ils vont, leur bonhomme de chemin, inconscient du danger qu'ils courent. En effet, il appartient à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Telle est la sentence des Écritures. Les habitants de Jérusalem n'étaient pas meilleurs que ceux de Sodome, ce qui fait qu'ils ont été jugés comme eux. Et l'Éternel a été tout à fait juste dans sa décision. Pourtant, ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu punit et châtie les hommes. Le prophète Jérémie écrit « Lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bienveillance, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. » Et Ésaïe qualifie les jugements divins d'œuvres insolites et de tâches étranges. Le nom Jérémie a donné le mot Jérémiade parce que dans ses écrits, ses plaintes révélaient le cœur de Dieu qui souffre d'être obligé de juger son peuple. Le message d'Ézéchiel est très différent. En effet, au moment même où Nabuchodonosor commence le siège de Jérusalem, la femme du prophète meurt subitement et l'Éternel lui interdit toute manifestation de deuil et de douleur. Il doit se comporter comme si rien d'anormal ne s'était passé. Au travers de Jérémie, Dieu a pleuré sur Jérusalem, mais une fois celle-ci réduite en cendres, il ne s'est pas lamenté. Il a châtié son peuple à contre-cœur, mais il a agi conformément à son caractère et surtout la justice dont il est la personnification et l'ordonnateur. L'apôtre Paul défend la façon d'agir de Dieu en affirmant haut et fort qu'il ne peut pas être injuste. Il doit certes juger, mais en contrepartie, Dieu a montré sa bonté, sa miséricorde et sa grâce en pourvoyant au salut des hommes au moyen de la rédemption que Jésus a accomplie sur la croix. Par son sacrifice, la vie éternelle est offerte à tous les hommes. Un peu avant le milieu des 7 ans de la tribulation, une confédération de nations dirigée par Gog attaquera Israël avec l'intention de le piller et de l'anéantir. Mais Dieu interviendra personnellement afin de les détruire dans un immense bain de sang. Mais va-t-il réellement le faire? Quand on va au catéchisme, on nous raconte de belles histoires de Jésus, mais elles sont triées sur le volet afin de ne pas choquer les âmes sensibles. On ne mentionne pas que le Christ a maudit un figuier, David, le monde, tous les religieux juifs de son époque, Judas, les riches, et j'en passe. On n'aime pas dire non plus qu'il a ordonné à un troupeau de cochons d'aller se noyer et qu'il parlait souvent du feu de l'enfer. Pourtant, c'est vrai. Je continue maintenant le texte du chapitre 39 d'Ézéchiel. « J'enverrai le feu sur Magog et sur tous ceux qui vivent dans la sécurité sur les îles des mers, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Je ferai reconnaître ma sainteté au milieu d'Israël, mon peuple, et je ne me laisserai plus déshonorer, moi qui suis saint, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Tout cela va venir, et tout s'accomplira. » C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Le jour dont j'ai parlé viendra. Versets 6 à 8. Ce jour de l'Éternel débutera par la tribulation et sera suivi du millénium. Le feu est une image classique du châtiment divin. C'est de cette manière que les deux royaumes israélites, celui des 10 tribus du Nord et Juda, ainsi que Jérusalem, furent jugés. Après l'invasion de Gog en Terre Sainte, c'est au tour de Magog, qui est son pays, d'être attaqué, mais aucun détail ne nous est donné. Les îles des mers, déjà plusieurs fois mentionnées par Ézéchiel, représentent les limites les plus éloignées du monde connu. Non seulement l'Éternel interviendra personnellement contre Gog et ses alliés, mais ils subiront aussi une cuisante défaite militaire. Gog et son pays seront détruits pour avoir voulu envahir Israël qui est toujours sous la protection de l'Éternel. Dieu ne se laisse pas marcher sur les pieds indéfiniment et quand il se décide à juger, ce n'est pas par caprice. Il agit toujours dans le but de révéler ses attributs au monde et en particulier sa sainteté et sa justice afin que les êtres insignifiants que nous sommes lui rendent l'hommage qu'ils lui doivent. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul écrit de Jésus que Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Un jour, effectivement, tout le monde devra courber les chines devant Jésus-Christ. Non seulement les croyants, mais tous les êtres humains sans exception, alors autant le faire de bonne grâce, aujourd'hui en acceptant d'obéir au Seigneur et en recevant la vie éternelle qu'il nous offre gratuitement. Un auteur du Nouveau Testament a écrit « Comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut ?» Je continue le texte d'Ézéchiel. « Alors les habitants des villes d'Israël sortiront allumer un feu. » Ils brûleront les armes, petits et grands boucliers, bâtons et javelots, et les arcs et les flèches. Ils en feront du feu qui durera 7 ans. Ils n'iront plus aux champs pour ramasser du bois. Ils n'auront plus besoin d'aller dans les forêts pour abattre des arbres, car c'est avec les armes que l'on fera du feu, et ils dépouilleront ceux qui les avaient dépouillés et pilleront tous ceux qui les avaient pillés. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Versets 9 et 10. 7 est un chiffre symbolique. Ici, il signifie que la défaite de Gog sera complète. Mais il est également possible que pendant 7 ans, les Israélites tireront profit de tout ce que les armées avaient amené avec elles. Dans la chronologie, les 3 premières années et demie de ces 7 ans, pendant lesquelles ils vont brûler les armes, correspondent à la 2e moitié de la tribulation, période durant laquelle les Juifs seront persécutés par l'Antéchrist. Donc ce matériel leur sera fort utile. Durant les 3 années et demie suivantes, ils seront déjà entrés dans le millénium. Ce sera donc la 2e moitié des 7 années de ce grand nettoyage et le moment de transformer à nouveau la terre promise en un pays ruisselant de lait et de miel. Je continue. Là-bas, en ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël, la vallée des Abarim à l'orient de la mer, et cela bouchera le chemin aux passants. On y enterrera Gog et toute sa multitude, on l'appellera la vallée de la multitude de Gog. La communauté d'Israël mettra 7 mois à les ensevelir afin que le pays soit purifié. Tous les gens du pays participeront et ce sera pour eux un titre de fierté le jour où je démontrerai ma gloire. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Versets 11 à 13. Abarim veut dire ceux qui passent, les voyageurs. Cet immense cimetière sera créé dans la vallée qui servait de route aux caravanes reliant Damas à la mer Rouge et à l'Arabie. Elle est située à l'est de la mer Morte dans le pays de Moab, c'est-à-dire en Jordanie. Sous la loi de Moïse, la présence de cadavres provoquait une impureté rituelle, ce qui rend leur ensevelissement indispensable. Ces guerriers seront enterrés en dehors, mais sur les confins du pays promis qui ne doit pas être souillé par cette multitude de morts. Cette vallée est désignée en Israël parce que durant son histoire, elle fut sous contrôle israélite à plusieurs reprises. Elle fait donc partie en quelque sorte du Grand Israël, mais sans être la terre d'Israël au vrai sens du terme. La colline qui constituera le sépulcre de Gog sera tellement gigantesque qu'elle fermera la vallée et donc le passage. En hébreu, il y a un jeu de mots qui est « La vallée des passants bouchera le chemin aux passants ». Je continue le texte. On choisira des hommes dont la mission sera de parcourir sans cesse le pays tout entier pour chercher les cadavres demeurés sur le sol et pour les enterrer afin de purifier le pays d'Israël. Quand les 7 mois seront passés, ils feront leurs recherches. Et quand ces inspecteurs parcourront le pays, lorsque l'un d'eux verra des ossements humains, il dressera à côté d'eux un tas de pierres jusqu'à ce que les fossoyeurs les aient portés en terre dans la vallée de la multitude de Gog. Et l'on donnera le nom de multitude à une ville, et ainsi l'on purifiera le pays tout entier. Versets 14 à 16. Il faudra 7 mois pour enterrer le gros de la troupe de Gog. Mais ensuite, il sera nécessaire de passer le pays au peigne fin afin d'ensevelir toute trace des soldats morts au combat. Comme le lieu d'inhumation se trouvera éloigné des cadavres, des scouts se borneront à indiquer leur présence, puis les fossoyeurs viendront les chercher et iront les enterrer dans la vallée leur servant de sépulture. On a l'habitude de voir des villes émerger là où s'installe une industrie particulière. Il en sera de même pour les pompes funèbres. Le travail des fossoyeurs prendra tellement de temps et d'énergie qu'une ville champignon sera construite pour les héberger et elle aura pour nom multitude. Je continue le texte. Quant à toi, fils d'homme, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Crie aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Venez, rassemblez-vous, accourez de partout en vue du sacrifice que j'offre pour vous. C'est un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez la chair et vous boirez du sang. Verset 17. Ézéchiel nous peint ici la scène terrible d'un champ de bataille où gisent des monticules de morts qui attirent les animaux sauvages. Pendant les longs mois que durera le nettoyage du pays, les vautours et autres carnassiers se repaîtront à loisir en festoyant sur les cadavres. Je continue plus loin. Et les nations sauront que si la communauté d'Israël a été menée en exil, c'est parce qu'elle avait péché, c'est parce que ses membres m'ont été infidèles. Je me suis détourné d'eux et je les ai livrés au pouvoir de leurs ennemis. Et ils sont tous tombés sous les coups de l'épée. Verset 23. Le monde entier comprendra que la quasi-destruction d'Israël n'était pas due à l'impuissance de son Dieu, mais à sa rébellion endémique contre lui. Je continue plus loin. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob et j'aurai pitié de toute la communauté d'Israël et j'aurai le plus grand souci de faire respecter ma sainteté. Ils oublieront alors leur honte du passé et toutes les révoltes dont ils se sont rendus coupables envers moi, l'Éternel. Lorsqu'ils habiteront en paix et en sécurité dans leur propre pays, sans avoir rien à craindre de personne, lorsque je les ramènerai du milieu des nations, que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, et que je manifesterai ma sainteté par ce que je ferai en leur faveur aux yeux de nombreux peuples. Ils reconnaîtront que je suis, moi, l'Éternel, leur Dieu, car je les ai envoyés en exil parmi les nations, puis je les ai rassemblés dans leur propre pays sans en laisser un seul là-bas. Versets 25 à 28. À la fin des 7 années de tribulation, Israël repentant sera restauré à tout jamais par l'Éternel. Tous les Juifs qui auront été dispersés par les persécutions de l'Antéchrist reviendront dans leur pays et entreront dans le millénium que Jésus établira sur terre. Je finis le chapitre 39. Et plus jamais je ne me détournerai d'eux quand j'aurai répandu mon esprit sur la communauté d'Israël. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Verset 29. Cette effusion de l'esprit correspond à la nouvelle naissance dont Jésus a parlé quand il a dit « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors la question qui se pose est la suivante. Vous, personnellement, êtes-vous né de nouveau ?